Ah, et puis, on est toujours dans cette rentrée culturelle. Hein? C'est septembre qui s'en vient. Je sais que ça veut dire que les vacances sont terminées, mais c'est la rentrée, puis la rentrée, c'est le fun aussi. Alors, c'est la rentrée culturelle. On a parlé tout à l'heure du théâtre Espace Go avec Edith Patenaude. Maintenant, c'est Philippe Cyr, qui est co-directeur artistique et général, c'est ça, du théâtre Prospero. Allô, comment ça va?
Bien, merci de me recevoir.
Ben, c'était un plaisir. Alors, j'y étais pas hier parce que on est toujours un peu dans le jus là, quand on anime l'émission du matin, puis des fois le soir, je sors moins parce que je suis fatigué. Mais c'était hier le lancement de la programmation.
Absolument.
C'est toujours très un bel événement. C'était comment?
Ah, on a eu une belle soirée. C'était plein de monde. On a même manqué de sandwich tellement qu'il y avait des gens. C'était absolument formidable.
J'aurais pas mangé, finalement. Bon, alors parlons de cette nouvelle saison, Abattre les murs. Pourquoi ce thème?
Bien, parce que cette année est une saison absolument particulière puisqu'on va rénover le théâtre.
Oui.
C'est vraiment au sens propre comme au sens figuré, ce thème-là, abattre les murs. Donc, dès novembre, on fait une grande rénovation où on met à jour les équipements du théâtre, mais aussi où on modifie un peu les espaces d'accueil. C'est-à-dire qu'on amène le bar au niveau de la rue, en bas, au rez-de-chaussée. Et comme ça, on va pouvoir ouvrir un café complètement ouvert sur la rue pour les gens en tout temps. Donc, on souhaite vraiment créer un lieu très, très ouvert. Et puis, bien, ça se reflète aussi dans la programmation, dans les choix qu'on fait, où on aborde des questions très importantes. Je dirais pas au goût du jour, mais des préoccupations politiques, des préoccupations d'identité aussi qu'on amène sur scène. Je pense à ces regards amoureux qui traitent de chemsex. Je pense aux suppliantes qui traitent de la question des migrants. Abattre les murs dans plusieurs sens.
Toujours trouver la façon d'utiliser la situation dans laquelle on se trouve, parce que c'est vrai qu'il y aura des gros travaux, puis d'utiliser ça aussi pour un peu mettre une espèce de ligne pour décrire c'est quoi la programmation. C'est une bonne idée.
Ben absolument. Puis les choses se font un peu naturellement comme ça, au sens où on choisit les projets, mais nous, on est tellement plongés dans notre quotidien, nos préoccupations, qu'on finit par, tomber sur des projets qui tombent en phase aussi avec ce qu'on est en train de faire.
Ah là, je vais sortir une grande vérité. Tout est dans tout.
Exact.
Bon, justement, j'aimerais ça peut-être aller tout de suite sur ce projet, puis on n'a pas eu la chance d'en parler ici. Le bâtiment s'apprête à subir une revitalisation, 5,8 millions de dollars, c'est de l'argent, dès novembre. Alors, c'est quoi les grands changements? On vient de mentionner qu'on va descendre le bar au niveau de la rue, mais c'est quoi les grands changements?
Exactement. Donc, on déplace l'entrée principale, on va rentrer davantage sur le côté du bâtiment, puis là, la vitrine va être grande ouverte, on va pouvoir ouvrir les fenêtres sur le trottoir, prendre un café là, avoir un espace très vivant. Vous savez, dans le théâtre, il peut y avoir tellement de gens qui travaillent en même temps, mais de la façon dont il est configuré actuellement, on voit pas les gens qui y sont, on voit pas la grande vitalité de ce lieu. Il peut y avoir des gens dans la salle de répétition, dans les bureaux, dans la salle intime, dans la salle principale. Le bar peut être plein, puis au niveau de la rue, on voit pas. Ce qu'on souhaite, c'est rendre ce café-bar-là vivant, visible et ouvert à tous les gens qui passent. Donc, vraiment, on souhaite créer un lieu très vivant. Et sinon, dans ce montant-là, il y a aussi beaucoup d'invisibles. Alors, des choses vraiment moins sexy qu'un café ouvert sur la rue.
Mais qui était fondamental, je pense que c'était la raison principale de ces travaux-là.
C'est absolument la raison principale, mais bon, refaire un toit, refaire les systèmes d'incendie, refaire de l'électricité, de la tuyauterie, la ventilation, des trucs comme ça, c'est un bâtiment qui n'a pas été touché depuis 1994. Donc, cette mise à niveau, elle est urgente, sinon les activités sont en danger. Donc, vraiment, l'essentiel de l'argent va de ce côté-là aussi.
Vous avez reçu du financement du gouvernement du Québec, puis, mais il faut quand même aller chercher de l'argent vous-même. Il y a une campagne de financement.
Absolument. Donc, on a reçu de l'argent du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada aussi, et il y a une campagne de financement importante. Donc, notre objectif de financement, c'est 1 million de dollars. C'est pas rien. On essaie d'atteindre cet objectif-là sur 2 ans. On va avoir besoin des gens, on va avoir besoin de la communauté. Puis d'ailleurs, hier soir, on annonçait un projet vraiment chouette, un des premiers gestes qu'on fait dans le cadre de cette campagne de financement qui s'appelle « Nous sommes des milliers ». On a invité nos amis de la firme de design Daily Tous les Jours. Alors, Daily Tous les Jours, c'est les gens qui ont conçu les balançoires musicales dans le quartier des spectacles. Alors, on les a invités à créer une œuvre qui est à venir. Là. Elle n'est pas conceptualisée, l'œuvre. Alors, on les a invités à venir imaginer une œuvre avec nous à partir des noms de tous les donateurs. Donc, les donateurs sont invités à participer à une œuvre qui va être à concevoir et qui va être présenté dans les espaces du Prospero. Donc, est-ce que ça va être dans la nouvelle cage d'escalier? Est-ce que ça va être dans le bar lui-même? Est-ce que ça va être dans les salles de bain? Que sais-je? On ne le sait pas encore, mais on invite les gens à inscrire leur nom dans l'histoire du Prospero.
Alors, parlons de cette programmation. Ça va être un petit peu plus condensé parce qu'on doit, on va devoir aussi vivre avec les travaux qui vont peut-être faire en sorte qu'il y aura des moments où on ne pourra pas utiliser la scène. Mais vous ouvrez avec la reprise de ces regards amoureux de garçons altérés. Je pense que c'est un texte assez... moi, je dirais que c'est un texte coup de pied. Hein? C'est dur, mais ça dit ce que ça a à dire. Vous, donc, que vous mettez en scène... comment on explique l'attachement du public pour qu'on le présente encore une fois?
Bien, on l'a présenté dans des petites jauges. Hein.
Le spectacle, ah oui, c'est vrai, la première fois, oui. Oui,
le spectacle, on l'a créé dans la salle intime, dans une salle de 45 personnes. Donc, on a fait une grande série de représentations, mais au final, peu de gens l'ont vu. Et là, on agrandit un peu la jauge. Donc, la jauge est de 90 personnes, ça reste très peu. Puis là, on présente à nouveau 15 représentations. On avait fait 4 représentations au FTA également, ouais, à la dernière édition. Mais visiblement, les gens souhaitent voir le spectacle encore. Puis c'est un spectacle qui touche vraiment les gens. Il est question de dépendance, hein? Puis ouais, la dépendance, ben, ça nous touche tous d'une manière ou d'une autre, que ce soit nous personnellement ou que ce soit dans nos familles, chez nos amis. Tout le monde a à faire face dans sa vie à des enjeux de dépendance, quels qu'ils soient. On peut parler de dépendance à la consommation, à la sexualité, une dépendance amoureuse. Ça prend de multiples visages. C'est multiforme, la dépendance. Mais le texte d'Éric est tellement bien écrit qui peut... tout le monde peut comprendre, ouais, comment cette pensée de liée à la dépendance peut se déployer ou en tout cas peut s'incruster de manière complexe dans notre psyché.
Puis même si ça se passe dans un sauna avec des personnes des communautés queer,
absolument,
ça dépasse ça parce qu'on se rend compte que la dépendance du personnage va au-delà de son orientation sexuelle. Voilà.
Bien, ça dépasse ça, puis en même temps, ça visibilise, oui, des enjeux pour la communauté qui ne sont pas visibilisés.
Ça fait les deux. Hein?
Exact, ça fait, oui, les deux, puis c'est ça que j'aime de ce projet et de ce texte.
Je vais aller dans la programmation qui continue. Il y a Sophie El Assad qui réinterprète Les suppliantes d'Échille.
Ah ben oui, alors là, cette saison, on donne dans le théâtre grec, ça arrive très peu, ça arrive très peu au Prospero, puis on est très content de le faire parce que la pièce d'Échille continue d'être extrêmement pertinente 2500 ans plus tard. Il est question de migration, d'accueil, de réfugiés dans cette pièce-là. Le scénario, en fait, le résumé de l'action est très, très simple. Hein. C'est un groupe de migrants, migrantes qui arrivent sur un territoire nouveau et ces personnes demandent l'asile. Et le roi les questionne, dialogue, et tout le long de la pièce, on se demande si le roi va leur accorder l'asile. C'est pas plus compliqué que ça. Puis en même temps, on peut deviner à quel point les questions sont complexes sur l'accueil, le racisme, l'identité. Et là, Sophie El-Assad a réuni un groupe d'interprètes absolument formidables. Ils vont être 7 sur scène, ils sont de tout horizon. Et Sophie, c'est une conceptrice de costumes. Hein? Donc, vous pouvez imaginer que dans une partition simple comme ça, il y a beaucoup de choses à raconter visuellement. Donc, Sophie est en train de travailler une partition très, très visuelle où le costume prend beaucoup d'importance et va pouvoir éclairer ou en tout cas, je dirais, complexifier la partition d'Échille qui date de 2500 ans.
Quand même. C'est quand même surprenant. Puis en fait, hein, encore une fois, je vais sortir une vérité de la palisse. Hein, l'histoire se répète.
L'histoire se répète, oui. Et malheureusement, on semble avoir une très grande difficulté à la changer, l'histoire.
Ah, la mémoire aussi. Ah, ouais. J'en sors une autre qui est une faculté qui oublie. J'arrête ça, là, parce que là, je vais aller me faire soigner si ça continue. J'avais une autre pièce qui a retenu mon attention, puis il y en a plusieurs, mais on parle aussi de présenter l'habitude des ruines. Moi, ça m'a interpellé de Marie-Hélène Levoyer, c'est son essai, et c'est Jérémy Niel qui fait ça.
Absolument. Donc, l'habitude des ruines, ça va être l'adaptation du texte de Marie-Hélène Voyer qui s'appelle « L'habitude des ruines ou le sacre de la laideur et de l'oubli au Québec ». Ça, c'est le titre complet de l'essai.
Oui, c'est vrai.
C'est très intéressant parce que, d'une manière très poétique, elle déploie un essai où elle regarde le sort qu'on fait subir à notre patrimoine. Et notre patrimoine bâti, entre autres, notre patrimoine naturel aussi, dans les paysages, partout au Québec, où... où, je dirais, elle dénonce d'une certaine façon le manque de soins qu'on apporte à tout ça. Bon, vous voyez, on a de la suite logique dans les idées.
Ben oui.
L'habitude des ruines en plein cœur d'une saison où on rénove le théâtre. Eh bien là, on n'aura pas notre salle pour présenter ce projet-là. Donc, on va accueillir les gens avec la compagnie Pétrus, qui est la compagnie de Jérémy Niel. On va accueillir les spectateurs à la Cité des Hospitalières. Tout ça, c'est tout près du Mont-Royal.
Oui, oui.
C'est un lieu absolument formidable. C'est beau, c'est préservé, c'est un lieu complètement historique. Donc, vous voyez qu'on a de la suite dans les idées.
Ben là, bravo, bravo. J'ai retenu une autre... J'ai vraiment fait des choix en fonction des gens que je connaissais. Si j'oublie des choses, tu me le dis. Il y avait aussi Floconi, Doda, Adra, c'est dans la salle intime.
Absolument. Donc, Oda Adra, qui avait présenté chez nous l'histoire de comment je me suis séparé en deux, c'est une artiste absolument formidable. Et elle nous racontait hier soir, justement, que c'est pendant l'histoire de comment je me suis séparé en deux, pendant les représentations, qu'elle commençait à imaginer la Floconi. Et là, quelques phrases de la Floconi sont nées durant les représentations. Et bien là, c'est le second volet de son travail qu'elle présente pour une deuxième fois, pour une seconde fois, pardon, au Prospero. Et puis, ben on est vraiment très heureux de la recevoir. Mais la Floconi, c'est quoi? Ben c'est une espèce de pays imaginé par Oda où les habitants sont en proie à une paix éblouissante.
Oh! OK, ça va être à voir. Il ne reste plus beaucoup de temps. On ne pourra pas faire le tour de toute la programmation. Mais c'est toujours comme ça quand on fait ces entrevues.
Mais on a pratiquement fait le tour, hein, parce qu'on a une programmation réduite étant donné le projet de rénovation. Donc, on a fait le tour des principaux projets.
Et il y a des pièces qui continuent de faire des tournées.
Oui, c'est Regards amoureux, entre autres, la pièce dont on a parlé au tout début, qui s'en va à Rouen, Jonquière, Québec et Aubic.
Oui.
Et Surveiller et puni, qui est le spectacle que j'ai créé, avec Safia Nolin. On va à Hambourg, en Allemagne, cette année, aussi à Bruxelles, au Hall de Skarbek.
Puis je rappelle aussi que le théâtre Prospero, qui a inspiré d'autres théâtres à le faire, vous avez toujours la billetterie solidaire?
Exactement. Donc, les gens peuvent choisir leur tarif parmi 4 tarifs disponibles de 26 à 55 $. Donc, vraiment très peu cher et au choix. On ne demande aucune preuve.
en fait, si j'ai bien compris, vos revenus de la billetterie n'ont pas diminué.
Non, ils ont augmenté.
Avis
à tous.
Faut le faire. Merci beaucoup, Philippe Cyr. Merci d'être venu à cette émission.
Merci encore.